Jeudi 22 mars, l'université Paul-Valéry de Montpellier, occupée par des étudiants mobilisés contre le projet de réforme de la procédure d'admission, a subi l'attaque d'un commando cagoulé et armé de bâtons. Mis en cause pour son soutien logistique et moral à ces faits de violence, le doyen de la faculté a depuis lors démissionné. Nombreuses sont les universités à avoir soutenu les étudiants grévistes malmenés et les condamnations ont fleuri sur les réseaux sociaux. Dans notre région, c'est à l'université de Lille 2 que s'est organisée la mobilisation antifasciste. C'est également là qu'a eu lieu mardi 27 au soir une nouvelle manœuvre d'intimidation par la force de la part de groupes identitaires locaux. Une fois encore, les étudiants présents ont condamné les collusions entre groupes fascistes et institutions policières et la répression de leurs mouvements, comme ce fut le cas lorsque la police a évacué un amphithéâtre occupé à l'université de Lille 3. En réponse à ces violences, des manifestations spontanées ont fleuri cette semaine, dont une mercredi 29 à Lille, manifestation clôturée par des bombes lacrymogènes et deux arrestations. L'occasion pour nous de recueillir quelques témoignages.
On a tenté de faire une manif sauvage pour accéder du coup, à la cité administrative de la fac, pour faire un peu de bruit. Là, après, on est parti vers la gare. Arrivé dans la gare, on a commencé à envahir la gare. Les CRS sont arrivés, ils ont gazé, ils ont tapé dans le tas. Là, on est reparti, du coup, on a continué. Et arrivé là, pareil, ils ont regazé et là on va repartir tranquillement en espérant être en sécurité et qu'on n'ait pas trop de blessés quoi. Aujourd'hui on a décidé de ne pas suivre les directives de la CNE, donc la Coordination Nationale Étudiante. Du coup c'est pour montrer qu'on est en solidarité du coup avec les étudiants qui sont réprimés partout en France, que ce soit par la police ou par les fascistes. On a nous-mêmes été victimes du coup à Lille 2 d'attaques fascistes. Et du coup on pensait que c'était important de manifester le plus rapidement possible pour affirmer notre solidarité et le fait qu'on ne se laisserait pas faire face aux fascistes et à la police et que la répression ne fera pas taire notre mouvement social quoi. À Lille 2, il y a eu plusieurs milices fascistes, Génération Identitaire et l'UNI, qui sont venus et qui ont cherché à frapper des camarades. Et ils en ont frappé plusieurs, il y en a plusieurs qui sont blessés. Et du coup, hier, c'est reparti, ils sont revenus une deuxième fois, et on a dû sortir et les chasser par nos propres moyens. Vu que la police les défendait, il a fallu faire nous-mêmes. Donc il a fallu sortir tous ensemble et affirmer qu'on était plus nombreux qu'eux et qu'on se laisserait pas faire.
On est venu à 14h pour une manifestation en réponse à ce qui s'est passé hier soir et avant-hier soir. Fac occupée, Lille 3, puis une AG à la fois lundi puis mardi soir, qui sont terminées par des attaques de 15 environ, et un groupe de 15 FAF. Disons qu'ils ont terminé l'AG en quittant le bâtiment de Lille 2 et ensuite ils sont allés un peu en manif sauvage, où il y a eu une arrestation a priori. Ils se sont fait un peu tirer des coups de flashball dessus. Et donc ce qui se passe là, c'est qu'à 14h, il y a eu un appel pour un rassemblement, une manifestation. On a fait tout un tour plutôt paisiblement. Il y a eu fumigène et des tags sur les murs. Il n'y a rien eu de cassé. Mais donc arrivé du côté de la gare, là, on s'est fait bloquer d'un côté comme de l'autre, par trois côtés. Et du coup, ils ont commencé à lancer des grandes bombes lacrymo en l'air, en fait, des grands bombs. Donc les bombes lacrymo, ça a commencé à piquer tout le monde. Il y a eu un peu de panique. On disait, faut marcher, faut rester groupé et tout. Là, on est encore tous groupés, mais on a tous mal aux yeux.
Alors, on dit qu'il y a des groupes identitaires fascistes qui ont attaqué l'île 2 en toute impunité. Et ici, une manifestation pacifique d'étudiants est attaquée par la police. Est-ce qu'il y a une différence de traitement ?
Ah bah, il y a clairement une différence de traitement. Hier soir, a priori, les policiers ont raccompagné les fachos tranquillement chez eux. Ils ont assuré leur sécurité, des témoignages que j'ai, et ils sont ensuite partis ensemble, en même temps, les voitures des policiers escortant un petit peu celles des FAF. Donc, comme il y a aussi pas mal de personnes qui connaissent des policiers qui sont eux-mêmes qui vont dans ces bars identitaires, j'ai peur qu'il y ait effectivement plus de collisions de ce côté-là que de l'autre côté. Nous, on se demandait au début de la manif si les baqueux qu'on voyait, tous les groupes de baqueux qu'on voyait autour de nous étaient là pour notre sécurité, la sécurité des manifestants ou pour la sécurité des FAF qui allaient attaquer. On n'a pas eu d'attaque de FAF là tout de suite, mais c'est ce qu'on craignait. On a eu une attaque de lacrymo. Et autre chose que je voulais dire, c'était l'attaque qu'on craignait. On a peur en fait que les forces de l'ordre soient en soutien plutôt à ceux qui veulent nous attaquer que l'inverse soutienne. Clairement là, ils n'ont pas assuré le soutien des manifestants. Ce qu'on a couru, il y avait un monsieur en fauteuil roulant. Il y avait une dame, une vieille dame qui était aveuglée que j'ai dû l'aider en prenant la main, et en l'emmenant. Il y a quelqu'un qui est en béquille qui criait ah les gars, c'est pas possible, je suis en béquille. Voilà. On a peur que ça monte en pression, mais de toute façon, il y a plein de gens qui sont pas prêts à lâcher là, donc ça va monter.
Ça s'est passé à Lille 2, vers 19h30. Il y avait 8 individus, dont apparemment 2 de GI et 1 de AF. Qui sont venus en fait essayer de rentrer. Donc ils n'étaient pas beaucoup, donc on ne sait pas s'ils voulaient vraiment rentrer, mais ils étaient à côté d'une grille et ils ont envoyé des trucs, ils filmaient. Donc avec d'autres copains, on s'est rassemblés pour essayer de les faire partir. Il y en a un qui a été gazé, un copain de Colère 59. Et après ils sont partis en fait quand il y a eu un groupe d'antifa qui a contourné, qui est sorti de la fac pour aller les rejoindre. Et au moment où ils sont arrivés, les flics ont débarqué et les fachos sont barrés, quoi. Voilà.
Et donc la police n'a pas essayé de les interpeller ?
Eh ben, alors il y avait la grille, donc on voyait pas très très bien, mais en fait on les a vus partir et les policiers on les a vus rester sur place. Donc bien après que les fachos soient partis. Donc s'ils les ont embarqués, c'était à pied, quoi. Voilà.
Ça fait écho évidemment à ce qui s'est passé à Montpellier. Et on dirait qu'ils s'organisent.
Clairement, parce qu'avec ce qui s'est passé et le peu de sanctions qu'ils ont eues, ils ont de plus en plus l'impression qu'ils vont pouvoir rester dans l'impunité. Et nous, de notre côté, ça nous mobilise énormément, parce qu'on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter déjà qu'il y ait des fachos, et on ne peut pas accepter qu'il y ait des fachos qui en plus pensent qu'ils peuvent agir en toute impunité sans que ça fasse chier personne.
Et d'après toi, c'est quoi l'intérêt d'attaquer les étudiants ou d'attaquer la mobilisation ?
Clairement, c'est montrer qu'ils existent et qu'ils sont là. L'enjeu pour eux, je pense que c'est vraiment ça, c'est simplement faire de la pub. Je pense pas que les actions, ils veulent véritablement frapper des gens, ils veulent juste montrer qu'ils sont là et qu'ils font peur et qu'ils peuvent venir à n'importe quel moment et qu'il faut avoir peur d'eux. Et nous, c'est contre ça qu'on se bat aussi, quoi. C'est pour leur dire que nous, on n'a pas peur et qu'ils peuvent venir, on les attend.
Cette manifestation en soutien aux attaques de fac par des groupuscules fascistes ne doit pas occulter l'objet initial de la mobilisation étudiante. Contester les réformes Blanquer et Vidal, dénommées réforme du bac et plan étudiant. C'est même l'occasion pour nous de préciser quelques points. La réforme du bac lancée par le ministre Blanquer concerne 3 chantiers. D'abord, la suppression des preuves terminales qui doit permettre de réaliser quelques économies budgétaires. Ainsi ne seront conservées que 2 épreuves majeures choisies en première, ainsi que la philosophie et un grand oral dit de maturité. Les autres matières, optionnelles ou pas, seront évaluées en contrôle continu. Ensuite, la suppression des filières, littéraires, scientifiques, etc., ou leur fusion, puisque c'est un bac qu'on dit à la carte qui est proposé. Les élèves choisiront donc des majeurs parmi les matières obligatoires, par exemple maths, économie, lettres et langues, et donc leur option après leur année de seconde. Enfin, l'oral, valorisé par une épreuve terminale bidisciplinaire, est censé s'inscrire dans une stratégie de désinhibition des élèves français. On prévoit également la semestrialisation des conseils de classe, une démultiplication des parcours, des réductions de postes d'enseignants. Ainsi, un tronc commun de plus en plus restreint se dessine avec la valorisation d'un lycée modulaire où l'élève responsable de ses choix est par conséquent tenu responsable de ses échecs. La dissolution du groupe classe dont s'inquiète le syndicat Sud Éduc et la déconstruction du cadre collectif, force potentielle qui aide l'adolescent à se construire, s'apparente à une perte de repères et de sens, que ce soit d'un point de vue citoyen ou pédagogique. Par ailleurs, plus les élèves choisissent et plus les inégalités structurelles de la société sont reproduites, car les choix sont déterminés par les conditions sociales de la famille et du milieu. La fin du baccalauréat national, premier grade universitaire, présage également de la fonction de tri que conduira le lycée. Revaloriser le contrôle continu revient à juger l'élève en fonction de sa scolarité et de l'environnement dans lequel elle se déploie. Symbole républicain, le bac, dans sa nouvelle forme, n'offrira pas les mêmes chances pour tous d'accéder à des études supérieures. Car c'est bien dans le cadre du plan étudiant proposé par la ministre Vidal qu'il faut restituer cette réforme du bac. Faute de moyens budgétaires et donc de place en amphithéâtre, certaines filières universitaires avaient instauré le tirage au sort pour sélectionner les étudiantes et étudiants. Plutôt que d'allouer plus de moyens pour que l'université reste accessible à tous ceux qui ont eu le baccalauréat, il a été conçu un barème avec des attendus correspondant aux compétences requises pour l'étude d'une discipline. C'est en regard du contrôle continu des élèves que seront désormais jugés ces attendus, mais également selon les appréciations des enseignants, des fiches sur les activités extrascolaires, ce qui renvoie encore une fois à une discrimination sociale. Enfin, c'est en fonction des résultats par filière que seront répartis les budgets des facs, ce qui laisse entrevoir l'appauvrissement des filières non rentables. À savoir que le nombre de bacheliers augmente et donc le nombre d'élèves en fac proportionnellement, d'où la solution proposée par le gouvernement, des restrictions à l'entrée sans augmentation de la capacité d'accueil. Tous les bacheliers ne pourront donc plus aller à l'université et tous ne choisiront plus leur filière. C'est là qu'intervient Parcoursup, la plateforme de sélection des admis, qui sera le dispositif unique délivrant un verdict, qui peut être oui, oui si, en attente ou non. Dispositif algorithmique que d'aucuns appellent machinaterie et qui relance le débat sur l'accès égalitaire à l'université. Le paradoxe de cette méthode de sélection est que si elle tente d'autonomiser l'individu dès le lycée, elle le dépossède de ses perspectives étudiantes et professionnelles en rationalisant à l'excès les choix de parcours. L'un des arguments d'une telle réforme serait le manque de réussite à l'université. 60% des étudiants échoueraient en licence 1 selon une étude ministérielle. Un chiffre revu à la baisse par le syndicat SNE, SUP et FSU qui affirme que 64% des étudiants en licence obtiennent le diplôme et que sur les 36% restants, la moitié se réoriente avec succès en IUT ou STS. Des chiffres proches du taux d'échec en école. Mettre l'accent sur les chiffres de la réussite scolaire est de toute façon fallacieux puisqu'il s'agit au premier plan d'une réforme budgétaire. C'est cette austérité qui conduit les procédures d'admission post-bac à être inégalitaires. L'université étant censée être le lieu par excellence de la mixité sociale, libre d'accès, indépendant des contraintes du marché, là où devrait pouvoir être détricotée la reproduction des rapports de classe. Or, cette réforme risque de favoriser les élèves au fort capital, social, économique ou culturel. Ce sujet a été réalisé par Luc Chaden de Micro Rebelle et Radio PFM.